Voici le journal présenté par Olivia Cohen. Bonjour Olivia.
Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Un Emmanuel Macron debout face caméra qui parle pendant 18 minutes, traditionnel exercice des vœux présidentiels. Sans surprise, la réforme des retraites est maintenue, nous ferons le point avec Rosalie Lafarge. Pour les syndicats, verdict sans appel, Macron reste sourd aux inquiétudes des Français, vous l'entendrez. Carlos Ghosn a dû passer un excellent réveillon chez lui au Liban. Le patron de Renault-Nissan se dit désormais prêt à parler. Sa fuite, un affront à la justice japonaise, analyse de notre correspondant à Tokyo. Et puis, saurez-vous ne pas boire d'alcool pendant un mois? Le Dry January débute aujourd'hui sans le soutien de l'État français. Et puis, la première question du jour de 2020, Benoît, ce sera en musique.
Nous serons en ligne tout à l'heure avec le président du tout nouveau, tout neuf Centre National de la Musique qui existe officiellement depuis ce matin. Jean-Philippe Thiellet sera avec nous à 7h12.
18 minutes de vœux présidentiels, debout, face caméra, Emmanuel Macron n'a pas fait d'annonce fracassante. Il n'a pas pu éviter de mentionner sa réforme des retraites, le dossier chaud du moment. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme attendu, Rosalie, Emmanuel Macron assure que cette réforme, je cite, sera menée à son terme.
Oui, il l'a rappelé, réformer le système de retraite, c'était une promesse de campagne. Alors le président l'assure, il entend les craintes, les inquiétudes, mais ces inquiétudes, selon Emmanuel Macron, elles ne doivent pas pousser à l'inaction. Il ira au bout de ce projet dans lequel il voit de la justice et du progrès social. Il en vante l'universalité, l'équité, la dignité, la responsabilité. Sans jamais parler de l'âge pivot, le chef de l'État laisse tout de même entendre que des adaptations seront possibles. Il évoque notamment une prise en compte des tâches difficiles pour permettre à certains de partir plus tôt, mais sans que ce soit lié à un statut ou à une entreprise, souligne encore Emmanuel Macron. Un président calme dans le ton, mais ferme sur le fond. Il mentionne l'apaisement qui doit primer, selon lui, sur l'affrontement, mais qui ne doit pas pousser au renoncement. Le chef de l'État laisse finalement Édouard Philippe en première ligne, puisqu'il n'entre pas dans le détail du projet. Il confie le soin au Premier ministre de trouver un compromis lors des nouvelles séances de négociations prévues la semaine prochaine. Une sortie de crise qu'Emmanuel Macron souhaite rapide.
Également dans ses vœux, Rosalie, le président a eu une pensée pour Jacques Chirac, pour la planète et l'écologie. Il veut aussi lutter, je cite, contre les forces qui minent l'unité nationale.
Oui, des décisions qu'il annonce pour les semaines prochaines parce qu'il voit, dit-il, trop de divisions dans notre pays au nom des origines, des religions, des intérêts. Présentera-t-il dans les jours qui viennent un projet de lutte contre le communautarisme, par exemple? En tout cas, Emmanuel Macron souhaite que 2020 ouvre la décennie de ce qu'il appelle l'unité retrouvée de la nation. Pour la renforcer, cette unité, il insiste sur le rôle essentiel de l'État et des services publics. Pour la porter, il croit, dit-il, pouvoir compter sur tous les élus. Et il dit cela juste avant d'adresser une pensée chaleureuse à tous les maires de France, les piliers de la République, souligne Emmanuel Macron. Façon, peut-être, de montrer aux voix qui se sont élevées pour réclamer l'interdiction de listes communautaristes aux municipales qu'elles ont été entendues.
Des précisions signées Rosalie Lafarge du service politique de France Culture. En ce 28e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, les détracteurs du projet se disent déçus, donc des vœux présidentiels, à commencer par les syndicats. Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, déplore que le président n'ait pas entendu les inquiétudes. François Omeril, président de la CFE-CGC, le syndicat de l'encadrement, lui, n'est pas surpris.
C'est ce à quoi tout le monde s'attendait un petit peu, à sa communication sur le sujet. Eh bien, il est droit dans ses bottes, il n'entend en vérité rien du tout de ce qui lui est objecté par l'ensemble du corps social, à savoir que sa réforme, contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas une réforme de justice, et la position de chacun, je crois, elle est de dire que dans le système actuel, il y a bien sûr tout un tas de nécessités et de capacités à faire évoluer les choses, mais que plaquer ce nouveau système, qui dès le premier jour sera en déséquilibre par le fait qu'il n'est pas assis sur la même assiette de salaire, va poser beaucoup trop de problèmes et qu'on va mettre d'une certaine façon le régime par répartition tel qu'il existe aujourd'hui en zone de grand danger.
François Omeril, président de la CFE-CGC, qui réagissait hier soir dans l'édition spéciale de France Culture. Pas de changement pour le projet de réforme des retraites, pas de changement non plus dans les perturbations de trafic. Un TGV sur 3, 4 TER et un Intercité sur 10, un Transilien sur 5 roule aujourd'hui. Ça s'améliore demain et surtout ce week-end. En ce week-end de retour de vacances, la SNCF en effet compte faire rouler 2 TGV. TGV sur 3. Et puis après le lac des Cygnes devant l'Opéra Garnier, la damnation de Faust de Berlioz sur les marches de l'Opéra Bastille. Hier, c'était au tour des musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Paris de donner un concert gratuit pour protester contre la réforme des retraites. Ils refusent la clause du grand-père proposée par le gouvernement et réclament de vraies négociations. Le concert suivi et filmé par des centaines de mélomanes. En Australie, des milliers d'habitants et touristes ont passé le nouvel an réfugiés sur des plages à cause des incendies qui redoublent d'intensité. Ces dernières heures, 4 morts et 5 disparus dans le sud-est du pays. Une bonne nouvelle, cependant, dans la ville touristique côtière de Malakota, entre Sydney et Melbourne, 4000 personnes ont pu être sauvées. Les pompiers ont eu droit à une standing ovation. Carlos Ghosn débute l'année 2020 chez lui, au Liban. Toujours aucun détail sur les circonstances de sa fuite rocambolesque du Japon. L'ancien PDG de Renault-Nissan y vivait en résidence surveillée à Tokyo, dans l'attente de son procès pour malversation financière. Citoyen libanais, il fait figure de héros dans son pays et de lâche qui défie la justice nippone. Frédéric Charles.
Carlos Ghosn gâche le nouvel an des Japonais, un moment empreint de religiosité où l'on vient dans les temples saluer les divinités et faire un vœu. Du Liban, où il s'est réfugié après avoir fui le Japon dans des circonstances mystérieuses, Carlos Ghosn reprend son j'accuse contre le système judiciaire japonais, où prévaut, dit-il, la présomption de culpabilité, où la discrimination est généralisée, où les droits de l'homme sont bafoués. Cette fuite est une victoire pour Carlos Ghosn et une humiliation pour la justice japonaise, laisse-t-on entendre sur les réseaux sociaux japonais. Il est libre, il échappe à 4 inculpations pour corruption. Son procès aurait duré des années et il risquait de mourir en prison. Un politicien japonais juge problématique qu'un pays laisse ainsi faire un départ illégal. Mais ça arrange peut-être les autorités japonaises. Son procès durant les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020 aurait été une source d'embarras. Carlos Ghosn devient maintenant un fugitif international. Pour les autorités japonaises, c'est la preuve de sa culpabilité.
Précision de Frédéric Charles, correspondant de Radio France au Japon. En guise de vœux pour la nouvelle année, Kim Jong-un menace de reprendre les essais nucléaires. Le leader nord-coréen promet une action sidérante, c'est le terme employé contre les États-Unis. Malgré cette annonce, Donald Trump renouvelle sa confiance en Kim Jong-un et sa volonté de dénucléariser la Corée du Nord. Donald Trump nettement moins confiant en ce qui concerne la situation irakienne. Les États-Unis vont renforcer la sécurité autour de leur ambassade à Bagdad, au lendemain d'une attaque lancée par des milliers de manifestants contre le bâtiment. Le Pentagone annonce l'envoi sur place d'une centaine de marines supplémentaires et d'autres troupes sont déjà en route pour le Koweït voisin et seront appelées en renfort en cas de besoin. Donald Trump, qui prend la présidence du G7 cette année, sommet prévu en juin à Camp David près de Washington. Le patron de la Maison Blanche recevra les dirigeants des 7 premières puissances économiques mondiales pendant 3 jours. Il aurait bien aimé joindre l'utile à l'agréable et recevoir dans l'une de ses propriétés son golf à Miami. Une idée aussitôt critiquée et aussitôt abandonnée, Grégory Phillips.
Donald Trump avait choisi le golf de Doral qu'il possède depuis 2012. 300 hectares à Miami, 4 parcours de golf, 700 chambres pour accueillir le 46e sommet du G7. Mais face à la polémique, il a donc renoncé et ce sommet se tiendra à Camp David, à 1h30 de Washington, dans la résidence de campagne des présidents américains, comme en 2012 où Obama avait lui aussi accueilli ses homologues. Au-delà de la polémique sur le lieu, on sait déjà, la Maison-Blanche l'a confirmé, que les questions climatiques ne seront pas sur la table. Alors que l'an passé à Biarritz, les feux en Amazonie avaient été au cœur des débats. La situation iranienne pourrait encore s'inviter cette année, tout comme les relations commerciales avec la Chine, alors que Washington doit finaliser mi-janvier un accord avec Pékin. Enfin, on sait que Trump est favorable au retour de la Russie dans ce groupe des premières puissances économiques mondiales. Moscou en avait été écarté après son invasion de la Crimée en 2014.
Précision signée Grégory Philippe, notre correspondant à Washington.
7h09, c'est le journal d'Olivia Cohen. Qu'importe le flacon, Olivia, pourvu qu'on ait l'ivresse.
Eh oui, ces mots d'Alfred de Musset que vous interprétez admirablement sont d'actualité. Merci, en ce lendemain de réveillon. Vous risquez peut-être de vous réveiller avec un mal de crâne carabiné et une forte envie de paracétamol si vous avez un peu trop abusé hier. Alors pour vous remettre le foie à l'endroit, le mois sans alcool, le Dry January débute aujourd'hui. Une campagne animée par une vingtaine d'organisations comme la Ligue du Cancer, mais sans le soutien de l'État français. Léo Joannol s'est décision du ministre de l'Agriculture il y a un mois avait fait polémique.
Le mois sans alcool, moi j'y suis très opposé.
Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture.
Moi je prône la modération toute l'année plutôt que la prohibition pendant un mois.
Reposer son corps, son esprit, voire son porte-monnaie, voilà l'idée du mois sans alcool. S'il a défrayé la chronique en France, en Angleterre, là où il est mis en place, l'initiative permet aux volontaires de s'interroger sur leur rapport au vin ou à la bière et de réduire leur consommation non seulement lors du mois concerné, mais également les mois suivants. C'est pourquoi les professionnels de santé comme Bernard Basset, vice-président de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, estime que ça vaut la peine de tenter le coup en France.
Il y a une pression du lobby viticole en particulier qui était totalement opposé à cette opération, bien que ce ne soit pas une opération où on dise on veut créer des abstinents en France. En France, le sujet de l'alcool est extrêmement sensible politiquement. C'est le problème, c'est qu'on n'arrive pas à découpler les aspects santé de l'alcool des aspects économiques. Le ministre de l'Agriculture, il est dans son rôle quand il défend l'économie. Il n'est pas dans son rôle quand il parle de santé.
En France, l'alcool fait en moyenne plus de 41 000 morts par an et selon l'Agence nationale Santé publique France, près d'un adulte français sur quatre dépasse la recommandation des 10 verres par semaine maximum.
Et puis en Alsace, à cause d'une consommation abusive d'alcool, une vingtaine de personnes ont été blessées par des pétards dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. La météo, de la pluie ce matin sur la moitié ouest du pays, de la Manche jusqu'en Gironde en passant par la Haute-Vienne. Attention au brouillard givrant en Alsace et dans le Doubs. Ça se rafraîchit nettement ce matin. Moins 2 degrés à Strasbourg et Montbéliard. 0 à Lille, Lyon et Aurillac. Dans le sud-est, au soleil jusqu'à 12 degrés à Menton. Vous écoutez les premiers matins de France Culture de 2020 et c'est avec vous, Benoît Bouscarel.
Bonne année, Olivia Cohen.
Bah oui, bonne année.